cette réunion se tient dans le cadre de la campagne des élections européennes. Je vais dire quelques mots sur notre perspective, nous, à Lutte ouvrière, qu'on défend au niveau de l'Europe, contrairement à tous les autres partis. On défend une Europe unie, par-delà les frontières, libérée des frontières, libérée des murs, des barbelés, où les peuples, où les travailleurs, les femmes et les hommes auraient le droit, le pouvoir de circuler n'importe où ils veulent et de s'installer n'importe où ils veulent. Voilà. On considère que un travailleur doit avoir les mêmes droits qu'un riche. Vous savez, les riches, si vous avez un compte en banque extrêmement bien pourvu, que vous soyez d'Afrique, du Moyen-Orient, vous pouvez vous installer où vous voulez. À partir du moment où vous êtes un travailleur, où vous êtes un pauvre, ça devient extrêmement compliqué et vous avez toutes les complications du monde au niveau administratif, etc., pour vous empêcher de circuler comme vous l'entendez et de vous installer où bon vous semble. Vous savez, vous avez d'un côté ceux qui se déclarent européens progressistes, voilà, c'est du côté de Macron, et puis vous avez les souverainistes qui sont anti-Europe ou une Europe où on se replierait chacun sur soi. C'est en gros Marine Le Pen, quoi. Vous savez, l'Europe, c'est une machine de guerre qui a été fabriquée par les capitalistes, par les bourgeois, pour s'assurer une domination sur l'ensemble du monde du travail, quelle que soit la nationalité que vous avez. Et c'est une machine de guerre qui est faite pour faire la guerre aux travailleurs. Et on voit bien là, si on prend l'exemple des travailleurs anglais, ce qui se passe en Angleterre avec le Brexit, bah, nos camarades, nos frères en Angleterre, les travailleurs anglais, ils sont en train de payer la note du Brexit. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que c'est les riches, c'est les milliardaires anglais, c'est les capitalistes anglais qui vont payer quoi que ce soit pour la sortie, pour que l'Angleterre sorte de l'Europe. Ça veut dire que si on devait sortir de l'Europe, ça serait les travailleurs qui paieraient. Si on doit rester dans l'Europe, c'est de toute façon les travailleurs qui payent. Dans cette équation qu'ils sont en train de nous proposer, dans ce débat qu'ils sont en train de nous proposer, de toute façon, pour eux, que ce soit les Macron ou les Le Pen, c'est les travailleurs qui doivent payer. C'est surtout pas les riches, c'est surtout pas les milliardaires. Alors, dans cette campagne électorale, bah, on est les seuls, à Lutte ouvrière, à proposer une troisième voie, à proposer un troisième choix. C'est que les travailleurs, ils défendent leurs intérêts dans cette campagne électorale, qu'ils fassent entendre qu'eux, ils ont des intérêts spécifiques à défendre et qu'ils sont décidés à le défendre à travers le vote, puisqu'on est dans une campagne électorale, mais que par-delà le vote, par-delà les élections, il faudra que les travailleurs y défendent leurs intérêts en utilisant leurs armes. Leurs armes, c'est quoi? Bah, c'est les grèves, c'est les manifestations, c'est les occupations d'usines. Bref, c'est avoir conscience qu'ils ont des intérêts à défendre face aux capitalistes, face aux bourgeois. Et ce qu'on est en train de faire dans cette campagne électorale, c'est qu'on veut absolument que ce camp des travailleurs, il puisse exister le plus fortement possible. C'est donner la possibilité aux travailleurs d'exprimer, à travers leur vote, à travers un bulletin de vote, à travers les élections, bah, qu'ils ne se laissent pas avoir par le débat pro-Europe ou anti-Europe, mais au contraire, qu'ils ont bien conscience qu'eux, ils ont des intérêts à défendre et qu'ils sont prêts et déterminés à les défendre. Parce que ce qu'on est en train de voir, si les travailleurs ne veulent plus subir la situation actuelle, la société actuelle, il faudra qu'à un moment ou à un autre, il y ait des luttes collectives, des mobilisations. Et ça arrive. Ça, nous, à Lutte ouvrière, s'il y a une chose, en tout cas, qu'on ne voudra jamais laisser tomber, c'est cette confiance dans la capacité des travailleurs à relever la tête et à se battre collectivement. Alors, on a des exemples, par-delà même les frontières, quand on regarde en Algérie ce qui est en train de se passer. Bah, en Algérie, il y a en ce moment une révolte, c'est des millions de travailleurs, des millions de manifestants, bah, qui manifestent leur colère, qui contestent le pouvoir politique en place, qui ont obtenu une première victoire, un premier succès avec la démission de Bouteflika, Mais il n'y a absolument rien qui n'a changé encore pour l'instant. Ils sont qu'au début de leur lutte. Mais en tout cas, on pourra y revenir, si vous voulez, pour l'Algérie. Mais on voit que la capacité des travailleurs, y compris en Algérie ou dans d'autres pays, elle est intacte pour se battre et pour contester le pouvoir en place et pour défendre leurs intérêts. Et on le voit ici en France, bon, il y a la mobilisation des Gilets jaunes qui continue encore, qui a démarré depuis le 17 novembre. Et ça fait maintenant plus de 5 mois que ça manifeste tous les samedis, que les ronds-points continuent plus ou moins à être occupés, mais en tout cas que cette contestation, le pouvoir en place, n'a pas encore réussi à la faire taire. Et cette contestation, elle est née d'une colère sociale qui existe aujourd'hui en France, parce que nous, les travailleurs, les chômeurs, les retraités du monde du travail, eh ben, on a encaissé des sacrifices, on a encaissé des efforts, on a encaissé depuis des années et des années des attaques brutales et qui commencent à devenir insupportables. Insupportables, d'autant plus que ce qui s'est passé avec l'incendie de Notre-Dame, c'est révélateur, si on avait des preuves à donner à ceux qui ne nous croient pas, c'est révélateur que la France est un pays extrêmement riche, qui a de l'argent. Il y a de l'argent en France. Là, quand on a vu, en moins de 48 heures, les quelques familles bourgeoises qui ont réussi à mettre sur la table en un claquement de doigts 1 milliard d'euros, pratiquement, 1 milliard d'euros, tout le monde a été impressionné par la facilité à laquelle ils ont fait des chèques. Chèques de 100 millions, 200 millions. Et je ne parle même pas que 60% de cette somme est déductible de leurs impôts. Je parle même pas de ça. Je parle même pas de ce problème. Il y a de quoi être écœuré. Il y a de quoi être en colère quand on voit avec quelle facilité, eux, ils arrivent à mettre l'argent sur la table. Et il faut avoir conscience que, par exemple, Bernard Arnault, quand il met 200 millions sur la table, parce que son ennemi de toujours, Pinault, il a mis 100 millions, donc lui, il a dit, allez, on met 200 millions. C'est un peu comme au poker, si vous voulez, mais c'est des sommes gigantesques. Lui, Bernard Arnault, quand il met 200 millions sur la table, c'est comme nous, on donne une pièce de 2 euros à un SDF. C'est la même grandeur. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que derrière, si vous voulez, ces bourgeois, ils font ça tous les jours. Ils vivent comme ça. Quand Bettencourt, la famille Bettencourt, met 200 millions sur la table, mais c'est tout le temps qu'ils font ça. Ils vivent comme ça, tout le temps. Ils se payent des yachts, ils se payent des châteaux, ils se payent des îles, ils vivent comme des rois, ils vivent comme des pachas. Et pour que eux, ils vivent comme ça, il faut que nous, on crève. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'ils nous mènent la guerre. Ils nous mènent la guerre, une guerre sociale, une guerre économique. Parce qu'on est dans une situation au niveau mondial où on est en pleine crise économique. Et c'est une crise économique qui ne va pas s'arrêter, qui ne va pas cesser, et qui enfonce toute la société dans cette crise. Et les capitalistes, entre eux, ils se font la guerre. Ils se font la guerre entre eux. Si on prend l'exemple de l'automobile, Peugeot fait la guerre à Renault, Renault fait la guerre à Volkswagen, Volkswagen fait la guerre à Ford, etc., pour se prendre des parts de marché, parce que c'est le système économique, le capitalisme, il est construit de cette manière-là, il est organisé de cette manière-là. C'est la course au profit. Et c'est la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. C'est comme ça qu'elle est régie, la société, que le système économique, il est organisé. Ça veut dire que pour avoir des parts de marché, au nom de la compétitivité, au nom de la rentabilité, ces capitalistes, ils licencient, ils suppriment des emplois, ils ferment des usines, ils bloquent nos salaires, ils transforment les CDI en intérim. Les intérims ont je ne sais pas quoi comme contrat. Les chômeurs se font traiter de feignants. Les retraités se font traiter de génération dorée, de privilégiés. C'est comme ça qu'elle se fait cette guerre. Cette guerre entre eux, elle se fait en fait avec notre peau de travailleurs et sur le dos de l'ensemble de la société. Et c'est ça qu'il faut vraiment voir. Et le vote lutte ouvrière, c'est un vote de la colère. Parce qu'on est les seuls, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est les seuls, et s'il y a des personnes qui ne nous connaissent pas trop, ces familles bourgeoises. Avec Nathalie Arthaud, on parle de famille bourgeoise, la bourgeoisie. Là, c'était marqué sur BFM LCI quand les familles elles donnaient. Moi, j'étais content. Quand j'ai lu sur, j'étais dans un café, je lisais BFM, voilà, famille Pinault, 100 millions, famille Arnault, 200 millions, famille Bettencourt, 200 millions, etc., etc. Il parlait des familles, c'est-à-dire des gens, des femmes et des hommes qui sont ultra riches. Alors, eux, ils appellent ça ultra riche, nous, on appelle ça la bourgeoisie. Ils sont sortis du bois, les bourgeois. Ils ont sorti leur argent, voilà, pour se faire bien voir, pour se faire de la pub, de la com, etc. Peu importe la raison. En tout cas, nous, depuis toujours, on les dénonce. On dénonce cette classe sociale. Parce qu'elle s'accapare toutes les richesses de la société. Et on voit qu'il y a de l'argent. Le problème, c'est que cette classe sociale, elle parasite, elle s'accapare toutes les richesses que nous, travailleurs, on produit, on s'échine à produire. Et on se crève à produire. Ces richesses, elles sont aspirées, elles sont complètement accaparées. Et il est là le problème. C'est que tant que cette bourgeoisie, elle sera aux commandes de la société, tant qu'elle possédera les grands moyens de production, les grandes usines, les banques, toutes les grandes entreprises, de toute façon, notre sort ne pourra pas changer. Pour que notre sort y change, il faudra qu'il y ait des luttes massives, déterminées, de l'ensemble des travailleurs, mais il faudra qu'on arrive à contester leur pouvoir, à contester leur domination sur l'ensemble de la société. Parce que sinon, on s'en sortira jamais. Alors oui, il y a un vote à exprimer dans ces élections, c'est le vote de la colère. C'est que ces gens-là, qui sont richissimes, ultra richissimes, ils écrasent toute la société. Ils se comportent comme un rouleau compresseur sur l'ensemble de la société. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Parce qu'on entend beaucoup dans les manifestations, mais c'est aussi relayé par des partis de gauche, par Mélenchon, et même des partis plus à gauche que celui de Mélenchon, Macron dégage, Macron démission. C'est évident que Macron, il est du côté des riches, il n'est pas de notre côté, il n'est pas du côté des travailleurs. C'est une évidence, il mène une politique contre les travailleurs. Mais on a l'exemple en Algérie, Bouteflika, il a jeté l'éponge, le problème il reste entier. Si les Gilets jaunes, par exemple, de par leur manifestation, arrivaient à obtenir le fait que Macron démissionne, ça serait un succès, c'est une évidence. Mais derrière, on mettrait qui derrière à la place? Un autre qui ferait exactement la même politique que Macron? Parce que le problème, c'est que c'est pas Macron qui dirige la société. Macron, il est aux ordres, justement, des Bettencourt, des Arnault, des Pinault.
Les
440. Les 440. Les actionnaires des entreprises du 440. Les ultra-milliardaires, les multimilliardaires, c'est eux qui commandent Macron. Ils leur donnent la feuille de route. Voilà, nous, ce qu'il nous faut comme politique à la tête de l'État, bah, il nous faut le CICE, 40 milliards d'aides publiques, la suppression de l'ISF, parce que tu ne vas pas nous embêter quand même avec l'ISF, donc tu vas le supprimer. C'est la taxe flat, c'est des crédits d'impôt, c'est des lois qui permettent de licencier encore plus facilement, qui permettent d'embaucher non plus des CDI, mais des contrats ultra précaires, c'est des facilités d'exploiter le monde du travail. Et Macron, il s'exécute, parce que Macron, il s'exécute de bonne grâce, parce qu'il est de leur côté, mais tout comme Hollande, avant, il s'exécutait de bonne grâce, tout comme Sarkozy aussi. Qu'ils soient de gauche ou de droite, ils sont du côté des bourgeois, ils sont du côté des capitalistes. Et c'est ça qu'il faut voir. Et donc là, on a un argument costaud, c'est quand ils ont mis tout cet argent sur la table. Et puis c'est rien du tout, c'est même pas une goutte d'eau. C'est même pas une goutte d'eau pour eux. Oui, c'est eux qui dirigent l'ensemble de la société. Je donne juste un petit exemple. Vous vous souvenez de Nicolas Hulot, qui était ministre de l'écologie, ministre d'État. Il était numéro 2 dans la hiérarchie du gouvernement. Il n'avait pas un strapontin. Et il a démissionné en disant qu'il avait en face de lui des lobbies qu'il ne pouvait pas combattre, qui était plus fort que lui. Alors c'est qui ces lobbies? Lui, il appelait ça les lobbies, bah, c'est les représentants des actionnaires du nucléaire, des industriels des pesticides, des industriels du plastique, des industriels de l'automobile, du pétrole. Donc c'est Total, c'est Peugeot, c'est Renault, c'est Monsanto, c'est les représentants de ces actionnaires-là. Ça veut dire que les capitalistes de ces entreprises ont beaucoup plus de pouvoir qu'un ministre. Bon, bah ça, il faut qu'on l'intègre, il faut qu'on s'en convainque, que ceux qui sont à la tête de l'État, ce n'est pas eux qui commandent en réalité. Ceux qui commandent, c'est ceux qui possèdent les grandes entreprises. C'est ceux qui nous exploitent. Et c'est eux les vrais responsables, c'est eux les vrais adversaires, les vrais ennemis qu'il faut d'abord dénoncer. Ça commence par qu'il faut les dénoncer et puis qu'il faut les combattre. Alors, pour les combattre, il faut que les travailleurs ils aient conscience qu'ils ont des intérêts à défendre. Et il faut avoir conscience que, d'abord, contre qui on doit se battre, je l'ai un peu expliqué, c'est pas forcément, c'est pas se limiter à Macron, c'est pas se limiter aux députés, c'est au contraire aller plus loin et puis combattre cette bourgeoisie, ces grandes familles bourgeoises, mais c'est aussi réfléchir sur quoi on doit se battre. Et dans ces élections européennes, notre programme, il est assez simple. C'est un programme de lutte, d'objectifs de lutte qu'on veut défendre, qu'on veut mettre en avant, qu'on veut expliquer, qu'on veut populariser. Des objectifs de lutte qui nous paraissent incontournables, vitales pour les travailleurs quand ils auront repris confiance dans leur force collective et quand quand ils redescendront dans la rue et quand ils occuperont les usines et quand ils seront en grève. Des objectifs qui leur permettront de trouver le chemin pour pousser l'avantage, leur force le plus loin possible. Et ces objectifs, ils sont simples. Ils partent du constat social que l'on fait de tout ce qui nous bouffe dans la vie. C'est sur le pouvoir d'achat, une des questions essentielles que les Gilets jaunes, de par leur mobilisation, ont réussi à mettre au cœur du débat, c'est l'augmentation des salaires, l'augmentation des pensions de retraite, l'augmentation des allocations. C'est une évidence qu'il faut, pour que notre pouvoir d'achat retrouve du poil de la bête, qu'on puisse s'en sortir à la fin du mois, il faut que nos salaires augmentent et nos pensions de retraite augmentent. Ça, c'est une évidence. Et pour ça, il faut s'attaquer au profit des grandes entreprises. C'est pas Macron qui va nous le donner. C'est pas Macron qui va nous le donner. Et c'est pas une loi qui va nous le donner. Mais nous, on pousse le raisonnement un peu plus loin. C'est non seulement des augmentations de salaire qu'il faut, mais il faut leur imposer à nos patrons et à l'État que nos salaires et nos pensions de retraite doivent augmenter en même temps que l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation de l'inflation. Parce que sinon, on se fait avoir. Il y a un exemple assez célèbre, c'est mai 68, grande grève générale, 10 millions de travailleurs dans la rue, la France qui s'arrête et est arrachée une augmentation de 30% du SMIC. C'est pas rien, 30% du SMIC. Voilà, aujourd'hui, ça ferait une belle somme. Ces 30% d'augmentation ont été avalés par l'inflation en quelques mois. Les quelques mois qui ont suivi, les patrons, ils ont augmenté les prix. Et puis, on s'est fait avoir. Quand je dis « on », j'étais même pas né. Mais, voilà. Parce que c'est comme ça que ça marche. Donc, il faut que, nous, ce qu'on veut populariser comme ce qu'on veut défendre comme revendication, c'est si jamais il devait y avoir une grève générale pour les salaires, oui, il faudra imposer des augmentations de salaire, mais il faudra imposer aussi un système qui fasse que, à chaque fois que les patrons ils augmentent les prix, eh ben, nos salaires augmentent automatiquement. Ça veut dire un rapport de force, on en est bien conscient. Par rapport au chômage, ce cancer qui bouffe toute la société, et on a des exemples dans la région, des patrons qui licencient, des patrons qui suppriment des emplois, et pourtant qui font des bénéfices, nous, ce qu'on défend, c'est que les licenciements, les suppressions d'emplois doivent être interdits dans les entreprises. Les fermetures d'usines doivent être interdites. Ça veut dire imposer ces revendications à nos patrons et à l'État. L'État aussi qui est... Macron, il veut supprimer 120 000 emplois dans la fonction publique. Bon, il est en train d'augmenter le chômage. En temps de crise économique, quand un patron licencie un travailleur, nous, on considère ça comme un crime social. Et ça, c'est quelque chose d'intolérable et d'inadmissible. Et interdiction des licenciements et se répartir le travail entre tous sans baisser les salaires. Parce que c'est pas parce que des commandes doivent baisser, c'est pas parce que quand il y a des commandes qui baissent, qu'on doit supprimer des emplois et qu'on doit licencier. Ça, c'est une logique patronale qui paraît peut-être évidente dans la tête de bon nombre de journalistes dans les médias qui sont véhiculés, mais pour nous, il n'y a aucune loi qui existe, qui est écrite, où quand des commandes baissent dans une entreprise, c'est forcément le travailleur qui doit payer. Pourquoi c'est toujours les travailleurs qui doivent payer ? Donc nous, ce qu'on défend, c'est interdiction des licenciements, interdiction des fermetures d'usines, et on se répartit le travail entre tous, parce que c'est comme ça qu'on pourra s'attaquer au chômage et qu'on pourra diminuer le chômage. Parce que c'est dans l'intérêt des travailleurs de diminuer le chômage, évidemment, parce qu'avoir un travail, c'est avoir un salaire, mais aussi, c'est défendre ses intérêts, parce que le chômage pèse sur l'ensemble du monde du travail. C'est comme ça qu'un certain nombre de travailleurs acceptent forcément d'avoir des salaires moins élevés, des droits qui sont rabotés, voire qui sont supprimés. Et puis, ce qui a été mis aussi un peu à l'ordre du jour, on en parle peut-être un peu moins en ce moment, mais avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est quand les Gilets jaunes ont posé le problème, ont posé la question de contrôler l'utilisation de l'argent public. Contrôler l'utilisation de l'argent public, ça veut dire contrôler l'argent de nos impôts. Et quand je parle des impôts, c'est les nôtres. Les riches, ils n'en payent pratiquement plus des impôts. Ceux qui payent des impôts, c'est ceux qui travaillent. C'est les travailleurs, c'est les retraités, c'est le monde du travail qui paye des impôts. Bah, c'est légitime de poser cette question-là. Contrôler l'utilisation de l'argent public. Pourquoi l'argent public devrait forcément financer des entreprises privées à fonds perdus qui licencient, qui suppriment des emplois et même qui ferment des entreprises? Pourquoi l'argent public ne va pas tout simplement au public? Dans la santé, dans les hôpitaux, il y a les services d'urgence qui sont en grève en ce moment, peut-être une grève qui va s'étendre dans tous les services de tous les hôpitaux, en tout cas ça serait souhaitable parce que ça craque de tous les côtés. Pourquoi l'argent public n'irait pas que dans l'éducation nationale ou dans tous les budgets qui nous permettent à nous de vivre dans notre quotidien? C'est une question légitime. C'est tout autant légitime aussi de contrôler l'argent privé, de contrôler tous les milliards de bénéfices qui sont tirés de notre travail dans les entreprises. Quand on voit que Bettencourt, qui possède L'Oréal, L'Oréal tout le monde connaît, bon, qui possède L'Oréal et qui fait des milliards de bénéfices, Bettencourt, c'est elle seule qui va décider de l'utilisation des milliards de bénéfices. Elle va rendre de compte à personne, ni au gouvernement, ni aux députés, ni aux syndicats et encore moins aux travailleurs. Parce qu'ils ont décrété que c'était une propriété privée, et donc les bénéfices, ça leur appartient, alors que c'est nous qui les avons produits. Donc il faudra que les travailleurs trouvent le moyen de mettre leur nez dans les comptes, dans la comptabilité, dans le fonctionnement des entreprises, et qu'ils, pour contester les décisions qui sont prises dans les conseils d'administration des grandes entreprises. C'est en gros les trois points dans notre programme, dans ce programme de lutte, dans ces objectifs de lutte qu'on met en avant, qu'on veut populariser à travers ces élections européennes, parce que ce sont non seulement des objectifs de lutte qui nous paraissent essentiels pour défendre la condition ouvrière, défendre les conditions de vie des travailleurs, mais c'est aussi, si les travailleurs arrivaient d'une manière ou d'une autre à imposer ces objectifs de lutte, ça permettrait d'ouvrir des perspectives, de contrôler, que les travailleurs contrôlent toute la société. Et c'est bien ça le but. C'est le fait que les travailleurs contrôlent l'ensemble de la société, qu'on réorganise la société et non plus que la société fonctionne sur la base du profit, sur la base de l'argent, sur la base du profit pour une petite minorité de bourgeois qui le claquent comme ils veulent et qui l'utilisent comme ils veulent, mais que les travailleurs contestent cette domination, prennent en main les moyens de production, réorganisent la société, parce que sinon, de toute façon, on va dans le mur. Quand je dis on va dans le mur, c'est même pas Lutte Ouvrière qui le dit. On le dit. Mais on est dans une crise économique où la finance met en danger l'ensemble de la société. On a connu un krach boursier en 2008, il y a à peine 10 ans, il y a un peu plus de 10 ans. Tous les experts économiques nous expliquent que c'est quelque chose qui nous pend au nez un mois sur l'autre. C'est-à-dire que là, on est en train de discuter, ça se trouve dans un mois, on a une crise boursière, on a une crise économique et rebelote, il va falloir sortir des centaines de milliards pour sauver les banques et pour sauver ces bourgeois qui sont pleins aux as. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui nous pend au nez. Crise économique, crise sociale, parce qu'on n'arrive pas à vivre, et puis crise écologique. Crise écologique, où là, c'est même pas du tout nous qui le disons, parce qu'on n'est pas calé sur le sujet, c'est les experts, c'est les chercheurs, c'est les scientifiques qui nous expliquent que si on continue à produire de cette manière-là, on emmène la planète dans le mur. Et il n'y a pas une solution qui est mise sur la table pour sortir de cette crise, de ces crises-là. La seule solution, c'est qu'on combat le capitalisme et qu'on réorganise la société de fond en comble. Alors ça veut dire des mouvements sociaux énormes, massifs, profond, avec une très grande détermination, on en convient. Mais en tout cas, pour nous, c'est la seule voie possible, c'est le fait que les travailleurs prennent leur destin en main, qu'ils s'organisent, qu'ils s'unissent et qu'ils défendent leurs intérêts. C'est la seule voie possible pour qu'on sorte de cette société où, de toute façon, non seulement on tourne en rond, mais on va dans le mur. On va dans le mur. Alors, on profite de ces élections européennes pour populariser le plus possible ce qu'on pense de la situation, pour dénoncer la politique de Macron, bien évidemment, mais pour populariser, pour mettre en avant et puis pour faire en sorte que le plus possible de travailleurs prennent conscience que c'est là-dessus qu'il faudra se battre. On est bien conscient qu'aujourd'hui, on n'a pas un rapport de force. On est très loin du rapport de force nécessaire pour imposer tous ces trois objectifs de lutte. Mais nous, à Lutte ouvrière, c'est ce que je disais au début, on a une confiance absolue dans la capacité des travailleurs à se mettre en révolte. Et on mise sur les révoltes de la classe ouvrière. Aujourd'hui, on a le mouvement des Gilets jaunes. Mais vu ce que Macron nous prépare, vu ce que les bourgeois nous préparent, le grand patronat nous prépare, de toute façon, des luttes. Il y en aura d'autres. Les Gilets jaunes, ce n'est pas les premiers, ça ne sera pas les derniers. Il y aura d'autres catégories qui vont se mettre en bagarre. Il y aura d'autres contestations, d'autres mobilisations. Nous, à Lutte ouvrière, c'est ce qui fait notre spécificité, je le dis comme ça, on mise sur les révoltes et les contestations de la classe ouvrière, des travailleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont au cœur de la société. Ils sont au cœur de la bête, si on veut parler comme ça. Au cœur de la bête, ça veut dire au cœur des entreprises. C'est eux qui fabriquent les centaines de millions, les milliards que possèdent les grandes familles bourgeoises. Que là, on a vu une toute petite partie de l'iceberg. Et ils sont non seulement c'est eux qui fabriquent ces richesses, mais c'est eux qui font tout tourner. C'est eux qui font tourner toutes les usines, qui font tourner les banques, qui font tourner les services publics, les hôpitaux, toutes les entreprises du pays. S'il n'y a pas les travailleurs, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout qui fonctionne. Donc c'est en tant que travailleurs, en tant que classe sociale, c'est eux qui ont la meilleure place, qui ont en tout cas la place la plus efficace pour peser sur les événements, peser sur les décisions du pouvoir public. Politique et peser sur les décisions du grand patronat. C'est pour ça qu'on est communiste, qu'on est révolutionnaire et qu'on défend cette perspective parce qu'à notre sens, c'est la seule perspective qui vaille le coup d'être défendue non seulement durant cette campagne électorale, mais au jour le jour, quotidiennement, avant, pendant et après la campagne électorale. Il faudra continuer à militer et c'est pour ça qu'à travers cette campagne électorale, plus il y aura de votes qui se mettront sur ce programme de lutte, sur ces objectifs de lutte, eh bien mieux ça sera pour que ces idées soient le plus diffusées parmi la conscience des travailleurs.